les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Si tu es heureux, tout te réussira. Ne prends au sérieux que les gens qui plaisantent. Ce que Sacha Guitry aimait le plus au monde, c'était le travail. Alors, eh bien, des pensées, des maximes, des mots. La deuxième soirée littéraire de la Comédie française consacrée à Sacha Guitry était, comme la première, l'œuvre amicale d'Alain Decaux. Première diffusion sur France Culture le 19 juillet 1969.
Nous avons quitté Sacha Guitry, nous racontant le roman d'un tricheur. Nous avons entendu Sacha Guitry et Madame Yvonne Printemps dans Mariette. Et de nouveau, nous reparlons du roman d'un tricheur. Orson Welles, et c'est tout de même une sacrée référence, a dit que pour lui, la projection de ce film avait été d'un intérêt déterminant et que sans le roman d'un tricheur, peut-être n'aurait-il pas fait Citizen Kane. Sacha était un novateur en ce sens qu'au cinéma, pour la première fois, il avait inventé ce que les techniciens appellent la voix off. C'est lui qui racontait l'histoire, cependant que les images montrait cette histoire exactement comme dans Citizen Kane. Sacha fut aussi un novateur au cinéma pour un autre film, un film beaucoup plus ancien, qui s'appelle Searching. Il avait pensé, et combien il avait raison, qu'il ne fallait pas laisser mourir les grands hommes de son temps, toujours ce goût des grands hommes, sans recueillir sur la pellicule leur visage, leurs gestes, leur attitude, et c'est ainsi qu'il avait tourné. Ce sont des images inestimables maintenant, Sarah Bernhardt, Renoir, Maître Henri Robet, le pianiste Paderewski, combien d'autres. Et quand il était allé pour tourner pour la première fois avec un caméraman engagé par lui, celui-ci avait placé sa caméra pour tourner les personnages en pied. Et Sacha lui avait dit, eh bien, oui, la première prise se fera en pied et ensuite je veux le visage seulement. Pardon, monsieur Guitry, a dit le caméraman, c'est impossible. Et pourquoi impossible? Parce que ça ne s'est jamais fait. Eh bien, dit Sacha, à partir d'aujourd'hui, ça se fera. Et c'est ainsi que Sacha Guitry a inventé le gros plan au cinéma. Il y a un autre aspect chez Sacha Guitry et c'est son amour du passé de la France. Tout homme qui avait été roi en France était pour lui inattaquable. Certains pourront sourire de cette naïveté, moi je la trouve charmante. Un jour, j'évoquais devant lui les manipulations monétaires de Philippe le Bel, qu'on a quelquefois flétri du crime de fausse monnaie, de nos jours on appellerait ça tout simplement dévaluation. Et le mot de fausse monnaie avait été reçu par Sacha avec vraiment un recul, comme si on l'avait accusé personnellement d'avoir volé. Et il m'a dit, péremptoire, je n'en crois rien. C'était un roi de France. Et autant il aimait le passé, autant il aimait l'avenir à travers la jeunesse. Il a écrit des très jolies choses en s'adressant aux jeunes. Et si vous le voulez bien, vous allez écouter maintenant le passé et l'avenir.
L'avenir est à Dieu, le passé est à nous. Quant au présent, ce n'est qu'une façon de s'exprimer. Il n'y a pas de présent puisque la minute où je parle est déjà loin de moi et que chaque instant qui s'écoule tombe dans le passé. Le passé se nourrit des minutes présentes et c'est ainsi qu'il nous absorbe. Mais ce n'est pas encore assez de dire qu'il est à nous, il est de nous. Il est notre œuvre. Ce qu'on donne au passé, le passé nous le rend. Et si ce qu'on lui donne est bien, il nous le rend impérissable. Mieux, il nous le restitue présent. Et en effet, quand nous citons une pensée de Pascal, nous annonçons que Pascal dit ceci, et non qu'il le disait, car il le dit toujours. Le passé, quand on interroge, est là qui nous répond présent. Et s'il s'interrompt parfois d'être exemplaire, il n'en continue pas moins de fournir des exemples qui sont en vérité des avertissements. Pour toutes ces raisons, je dirais volontiers, préparons le passé.
Ceux qui n'auront pas vécu au XVIIIe siècle n'auront pas connu la douceur de vivre. L'homme qui a dit cela fut l'un des hommes les plus intelligents qui aient jamais existé, le plus vilipendé peut-être, et l'un des plus spirituels. Je veux parler de Talleyrand. Cet homme savait tout, comprenait tout, devinait tout, mais parce qu'il était souple, on l'accusait de fourberie, et parce qu'il était spirituel, on le disait méchant. D'un gouvernement qui accumulait les sottises, un étourdi lui demanda ce qu'il pensait. Il répondit « Pourquoi ces gens-là ne sauveraient-ils pas la France? Les oies ont bien sauvé le Capitole. » Une dame lui demandait un jour, à lui qui boitait, « Comment allez-vous ? » Il lui a répondu, à elle qui louchait, « Comme vous voyez, madame. »
Si un homme profondément intelligent peut au besoin manquer d'esprit, soyez du moins persuadé qu'un homme d'esprit est à coup sûr intelligent, car il a le sens du ridicule pour lui-même.
Avoir le sens du ridicule pour soi-même, c'est la meilleure façon d'avoir le sens critique. Ce fameux sens critique qui n'est valable en vérité que si vous l'exercez à votre profit, et non pas aux dépens des autres. Or, il est à noter que la plupart des critiques sont précisément dépourvues de sens critique.
S'ils avaient le sens critique, il ne ferait pas de critique. Il ne commettrait pas l'imprudence d'écrire de si grandes absurdités. Je ne vous en citerai qu'un exemple, mais il est concluant. Et je l'emprunte au plus illustre des critiques, à Sainte-Beuve. Que dit-il de Balzac, ce géant? Il dit « Monsieur de Balzac est occupé à écrire 100 volumes que jamais personne ne lira. Voilà ce que c'est que de n'avoir pas le sens critique pour soi-même. »
Et voilà ce que c'est que de n'avoir pas d'esprit.
Bien des personnes aiment à dire qu'elles ont une prédilection marquée pour les choses profondes. Or, je me demande si ces personnes ne commettent pas bien des erreurs en prenant souvent pour profondes des choses qui sont creuses. Si ces personnes étaient devant moi, je leur dirais bien poliment, aimez les choses à double sens, mais assurez-vous bien d'abord qu'elles ont un sens. Souvenez-vous qu'on peut être hermétique et ne rien renfermer. N'oubliez pas que hermétique, cela veut dire aussi boucher. Et quand une phrase ténébreuse, alambiquée, vous donne le vertige, souvenez-vous que ce qui donne le mieux encore le vertige, c'est le vide.
Eh bien, tout ce que je viens de vous dire là peut se résumer d'un seul mot. Parce que c'est un mot d'esprit. Il est d'Alfred Capus, ce mot. Un jour, un de ces hommes pénétrés d'eux-mêmes et qui se croient profonds, déclarait à Capus, et comme si c'était le résultat d'une longue méditation, « Mon cher Capus, tout est dans tout. » Oui, et réciproquement, lui répondit Capus. Vous voyez qu'un adverbe peut devenir un mot dans la bouche d'un homme éblouissant d'esprit.
À cela, vous me répondrez que vous avez bien le droit d'aimer ce qui est nébuleux, et je n'en disconviens pas. Mais vous me permettrez bien à moi de partager l'opinion de Rivarol quand il nous dit que tout ce qui n'est pas clair n'est pas français. Voilà qui est fort bien dit. Rabelais, Ronsard, Molière, Diderot, Voltaire, Hugo, Musset, voyez comme tout cela est clair et comme c'est français. Eh bien, et bon marché. Et quand il nous déclare qu'il se presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, comme il dit bien ce qu'il veut dire.
Ce n'est pas sans raison qu'un mot spirituel, cela s'appelle un trait d'esprit. C'est une flèche, en effet. Flèche qui peut blesser quelqu'un, parfois mortellement. C'est donc très sérieux et il ne faut pas plaisanter avec l'esprit. J'entends par là que l'ironie, la fantaisie, le jeu de mots lui-même, loin d'être négligeable, ont un rôle à jouer en toutes circonstances. Et Voltaire, qui savait tout, le sait si bien qu'au déclin de sa vie, il dit un jour ceci, « Je m'arrêterai de mourir s'il me venait un bon mot. »
Mais là, on se demande s'il n'est pas mort dans un moment de distraction. Jugez-en. Voltaire prend en flagrant délit sa très vieille maîtresse avec un tout jeune homme. Il fait « Oh !» et il ajoute « Jeune homme, vous, et vous n'y étiez pas obligé. »
Un bon mot est une chose sacrée, l'on n'a pas le droit de le garder pour soi. Ainsi, j'ai vénéré Madame Sarah Bernard et je l'ai considérée comme ma seconde mère. Et pourtant, je ne peux pas ne pas vous répéter le mot le plus méchant qui était fait sur elle, parce que ce mot affreux résumait ce soir-là miraculeusement toute la situation.
Le mot est d'Ernest La Jeunesse, écrivain singulier de beaucoup de talent, cruel et détesté.
Vous savez, n'est-ce pas, que Madame Sarah Bernard avait dû subir à 75 ans l'amputation d'une jambe. Et tout de suite, la question s'était posée de savoir si jamais elle pourrait reparaître ainsi sur un théâtre. Or, un an plus tard, on apprit qu'elle allait faire sa rentrée. Une autre question s'est posée alors. Comment va-t-elle pouvoir s'y prendre?
Portera-t-elle une jambe articulée?
Aura-t-elle cette jambe de bois qu'on appelle un pilon?
Devra-t-on la porter sur la scène?
Jouera-t-elle assise?
Toute question très émouvante, en vérité. Le soir de la première arrive, le tout Paris est dans la salle et le rideau va se lever. Le régisseur frappe les trois coups.
La jeunesse alors se penche vers son voisin. La voilà.
Jeunes gens, méfiez-vous des hommes de 40 ans qui sont insatisfaits. Mettez en doute leurs paroles, au pluriel et au singulier. Méfiez-vous de ceux que le succès des autres empêche de dormir. Car de même qu'un livre n'est pas fatalement bon parce qu'il ne se vend pas, de même qu'une comédie n'est pas nécessairement mauvaise parce qu'elle a du succès. N'avoir pas réussi sous le défunt régime n'est pas une preuve évidente de génie. Ce sont là raisonnements de ratés et vous devriez savoir que les ratés ratent même leurs raisonnements. Méfiez-vous des vieux qui disent « place aux jeunes ». Ils n'ont qu'à s'en aller s'ils aiment tant les jeunes. Or, vous observerez que ceux qui disent « place aux jeunes » ne leur offrent jamais que les places des autres. Défiez-vous des révolutionnaires appointés. Fuyez les petites chapelles où l'on se congratule à longueur de journée au détriment de ceux qui n'en font point partie. Fuyez les clans, fuyez les cliques, fuyez les lieux où l'on met en commun les convoitises et les rancœurs. N'allez pas rechercher l'assistance des faibles et même écartez-vous de ceux qui s'associent. Car ordinairement, quand on établit des statuts, c'est qu'on a des statues à déboulonner. Et pour tout dire, enfin, ne soyez pas de ceux qui haïssent. Jamais. Tâchez d'être plutôt parmi ceux que l'on hait. On y est en meilleure compagnie. Pour cela, travaillez. Travaillez pour votre plaisir. Travaillez comme si c'était défendu. Prenez la bonne route et allez droit au but. Quand on vous traitera de parvenu, c'est que vous serez arrivé. Et si l'on s'attaque un jour à votre vie privée, vous pourrez en conclure que l'on ne trouve plus rien à dire à vos ouvrages. Attendez-vous à tout cela, mais moquez-vous-en bien. Devenez honnête homme, et vous verrez alors que l'on n'est détesté que par les imbéciles ou par des gens qui sont d'une laideur extrême.
Travailler sans en avoir envie, ça n'est pas un travail qu'on fait, c'est une besogne. C'est faire l'amour avec une femme sans l'avoir désirée. D'abord, il faut pouvoir. Et c'est à ces moments-là qu'on se rend compte à quel point l'on a peu de mérite à faire les choses qui vous plaisent. Quand on travaille dans la joie, dans l'enthousiasme, on n'a droit à rien. On n'a même pas droit au succès, on est payé d'avance. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il y ait des paresseux. Non, il y a des malades. Et puis surtout, il y a des gens, il y a beaucoup de gens, il y a malheureusement trop de gens qui ne font pas le métier qu'ils devraient faire. Et c'est à mon sens une des raisons pour lesquelles tout va si mal, puisqu'il paraît que tout va mal. Je crois que le nombre des hommes qui exercent des professions pour lesquelles ils n'étaient pas faits est aussi grand que le nombre de ceux qui ont épousé des femmes qui n'étaient pas faites pour eux. La plupart des hommes choisissent des compagnes qui sont au-dessus de leur physique et des carrières qui sont au-dessus de leurs moyens. Et il est étonnant de penser que chaque fois qu'un homme épouse une femme, il s'imagine qu'il épouse sa femme. Ils disent « le jour où j'ai épousé ma femme ». Ils disent même « le jour où je me suis séparé de ma femme ». Il ressemble à ces gens qui déclarent « mon train part à 17h12 » et qui continuent à l'appeler « mon train » même quand ils l'ont manqué. Je me suis rendu compte que si je travaillais tout le temps, comme je le fais, du matin au soir, souvent du soir au matin et d'un bout de l'année à l'autre, c'était par paresse. Oui, je fais tout le temps quelque chose parce que j'ai remarqué que lorsqu'on faisait quelque chose, on ne faisait qu'une chose, ce qui n'est pas fatigant. Tandis que lorsqu'on ne fait rien pendant une minute ou deux, on pense alors à tout ce qu'on a à faire, et alors ça, c'est éreintant.
Et maintenant, les pensées, les maximes, des mots, Et puis encore un poème qui est l'impromptu de Janson de Sailly, cet impromptu que Sacha composa pour le cinquantenaire de ce lycée où il était allé naturellement, en sixième. Et enfin, vous l'entendrez parler de l'esprit, vous l'entendrez parler du métier de comédien, car nous avons dans cet homme-là une providence, car il est auteur, il est acteur, et l'auteur peut mieux que personne parler de l'acteur. Alors, encore une fois, écoutez-le.
Depuis des siècles et des siècles, les Français passent pour être les gens les plus spirituels du monde. Ce n'est pas à nous de le dire, bien entendu. Et ce n'est pas à nous non plus de l'oublier, ni de le faire oublier. D'autant moins que nous devons être assez spirituels pour admettre que les étrangers en pensent tout autant d'eux-mêmes. Parmi tant de continuités littéraires, artistiques, scientifiques, dont la France peut s'enorgueillir, il y a celle de l'esprit, qu'il ne faut pas que l'on néglige, car elle est un précieux et constant témoignage de sa présence dans le monde. L'esprit, qui ne figure pas dans les bibliothèques, occupe une place privilégiée dans les salons, dans les boudoirs, dans les salles à manger, dans les bureaux, dans les cafés, dans les cuisines et dans la rue. Il n'y a qu'une chose qui aille plus vite qu'un mot d'esprit, c'est une fausse nouvelle. Il y a bien entendu plusieurs sortes d'esprit. La plus remarquable, à mon sens, est celle qui se présente sous forme de riposte, qu'elle soit éclatante ou seulement cocasse, cette riposte. On nous l'envie, on la redoute, et même quelquefois on la blâme. Voici, tenez, un bel exemple de riposte. L'auteur de La Parisienne, Henri Beck, avait la réputation, justifiée d'ailleurs, de dire des mots cruels. Oui, il a dit en effet, « Méfie-toi de ton premier mouvement, c'est le bon ». Il a dit, si l'on frappe chez toi, n'ouvre pas, c'est un ennemi qui entre. Or, un soir, à dîner, chez Madame Auberneau, un général, idiot, lui demanda imprudemment, Monsieur Beck, dites-nous un mot amer. Et Beck lui répondit, non, mais est-ce que je vous demande à vous de tirer le canon?
Redouter l'ironie, c'est craindre la raison. Être sérieux visiblement, c'est visiblement se prendre au sérieux. C'est attacher beaucoup trop d'importance à soi-même, à ses opinions, à ses actes. C'est croire à son destin plus qu'au destin lui-même. C'est confondre l'orgueil avec la vanité. Croire au destin, s'imaginer qu'il vous protège, évidemment c'est de l'orgueil, mais ça rend gai. Tandis que croire à son destin, s'imaginer qu'on fait soi-même ce qu'on fait, que le hasard n'y est pour rien, c'est de la vanité et c'est cela qui rend triste. Être léger, visiblement, c'est démasquer les vaniteux, c'est inquiéter les imposteurs, et c'est confondre les méchants. C'est opposer la grâce à la mauvaise humeur, et c'est donner, en outre, un témoignage exquis de pudeur morale. L'écrivain, ou l'auteur dramatique à qui on demande ce qu'il est en train d'écrire en ce moment, et qui vous répond « Je mets la dernière main à un ouvrage philosophique extrêmement puissant » au cours duquel je pose certains problèmes dont je trouve la solution, cartésienne d'ailleurs, à la faveur d'un conflit sentimental où deux âmes exaspérées s'affrontent et se déchirent, eh bien l'homme qui vous répond cela vous prend pour un idiot. À moins qu'il ne soit lui-même une espèce d'imbécile. Car il me fait penser au monsieur qu'on rencontre et à qui on demande imprudemment de ses nouvelles, et qui répond « Oh, je souffre en ce moment de coliques hépatiques. J'ai des extrasystoles, quelquefois des vertiges, un rhumatisme abominable dans l'épaule, et ma prostate me fait très peur. » On ne lui en demandait pas tant. Et cela me fait souvenir d'un soir où Mme Sarah Bernard recevait dans sa loge une dame qu'elle connaissait peu. Cette dame voulait attirer sur elle l'attention de Mme Sarah Bernard qui se maquillait. Elle lui fit part de la mort de son mari, puis de sa mère, puis de sa fille. Madame Sarah Bernard continuait à se maquiller en murmurant « Oh, mais c'est effrayant !» Jugeant probablement insuffisante la part qu'elle prenait à son malheur, cette dame ajouta « J'ai aussi perdu dernièrement mes neveux et ma sœur et mon père vient de mourir. » Ayant ainsi supprimé toutes ses familles.
Merci.
Ayant ainsi supprimé toute sa famille, elle conclut « Ah, j'en suis à me demander si je ne ferais pas mieux de me tuer. » Et Mme Sarah Bernard, qui ne l'écoutait plus depuis longtemps, lui répondit distraitement « Oh ben oui, ce serait une bonne idée. »
Impromptu, dit par l'auteur au banquet du cinquantenaire du lycée Janson de Sailly, 17 novembre 1934. Messieurs, je suis touché, très touché, mais confus. Plus confus que jamais encore je ne le fus. Oh certes, je vous remercie d'avoir voulu m'admettre aujourd'hui parmi vous, mais cependant, je vous avoue que je ne me sens pas très à ma place ici. Il faut être sincère. Quand on m'a dit « Venez à Janson de Sailly pour fêter son anniversaire », eh bien, messieurs, j'ai tressailli. Venir à Janson de Sailly, me joindre aux gloires de l'école et prendre la parole. Il m'a paru vraiment que c'était bien osé, bien téméraire, et j'ai failli me récuser. On insista, je suis venu, mais en tremblant. Car enfin, pour moi, c'est troublant de me trouver ici, veuillez en convenir. Est-ce pour me punir ou pour me rajeunir qu'on m'a si gentiment demandé de venir? Non, ce n'est pas pour me punir. Et tout à coup, je crois deviner la raison qui vous fait m'accueillir et qui m'autorise à m'asseoir parmi ceux dont cette maison peut aujourd'hui s'enorgueillir. Il vous fallait un repoussoir. Et vous ne pouviez pas en trouver un meilleur. Je suis le paresseux parmi les travailleurs. Je suis la couleuvre, le loir parmi les abeilles et les fourmis. Je suis l'oison parmi les aigles. Enfin, chez vous, messieurs, je suis l'exception qui confirme la règle. Donc, je vous en conjure, admettez mon émoi. Et bien que ces regards qui sont posés sur moi me semblent indulgents, en vérité, messieurs, je tressaille, en songeant que l'un de vous pourrait peut-être s'aviser de m'interrompre en me disant « Savez-vous enfin les sous-préfectures du département de la Côte d'Or ?» Or, voyez d'ici ma torture, obligé d'avouer « Non, monsieur, pas encore. » Mais poursuivons notre discours. Je n'ai passé dans ce lycée qu'un temps très court, 8 ou 10 jours, j'étais pressé. J'en avais 11 encore à faire, vous pensez? Oui, 11 encore. J'en ai fait 12 en 13 années. Convenez que c'est un record. À ce propos, messieurs, je veux vous signaler l'injustice du sort. Le lycéen parfait, celui-là qui n'a fait qu'un seul collège dans sa vie, on le convie au banquet des anciens élèves du lycée, évidemment, où sa jeunesse s'est passée. Mais ça ne lui fait jamais qu'un seul repas par an. Un seul, hélas, puisqu'il n'a fait qu'un seul lycée. Tandis que moi, que de partout l'on a chassé, exemple déplorable et terreur des parents, moi, j'ai 12 repas par an qui me sont assurés. Mais j'abrège, n'ayez aucune inquiétude. D'ailleurs, vous connaissiez, messieurs, mes habitudes, je ne reste jamais longtemps dans un lycée. Cette fois-ci, vous n'aurez pas à m'en chasser. J'y suis resté 8 jours, il y a 40 ans, encore une minute, et je vais être loin. Vous le voyez, je reste ici de moins en moins longtemps. Celui qui m'a chassé, mon Dieu, je le revois. J'entends sa voix, comme si c'était hier. Il rappelle un peu Monsieur Thiers. Il est debout, très irrité, il s'énerve, s'emporte et me montre la porte en me disant « Sortez !» Vous aviez affaire sans ligne. Vous n'avez pas voulu les faire, c'est indigne. Et vous n'en rentrerez ici, vous m'entendez, que quand vous aurez fait vos 100 lignes. Sortez ! Eh bien, messieurs, je les ai faites. Il disait vrai, ce bon vieillard. Et puisque le Janson vous célébrait la fête et m'en ouvrait les portes, mes 100 lignes, les voici donc. Je les apporte avec 40 ans de retard.
Le métier de comédien est-il un métier comme un autre? Les comédiens sont-ils des hommes comme les autres? Eh bien, tout compte fait, non. Si l'on s'amuse à comparer la profession de comédien à n'importe quelle autre profession libérale, on est surpris de découvrir certaines particularités, certains contrastes essentiels auxquels tout d'abord on n'avait pas pensé. Le seul fait de l'exercer en public et en commun, quand la nuit est venue, à l'heure où justement les autres cessent de travailler. Et pendant le temps qu'il est convenu de consacrer au plaisir, au délassement, ce fait seul nous met dans une situation un peu spéciale, convenez-en. Jouer la comédie, c'est mentir avec l'intention de tromper.
C'est créer l'illusion d'une quantité, d'une infinité de sentiments divers que l'on n'éprouve pas et qu'il convient pourtant de faire partager. Et, phénomène curieux entre tous, ce métier ne demande aucune valeur intellectuelle. L'instinct est l'infaillible guide du comédien né. C'est un métier pour lequel il faut être doué. On ne peut pas devenir un bon comédien à force de travail, d'intelligence et de volonté. On peut jouer la comédie sans aucun don, mais on la joue mal. On fait mal semblant. Or, savoir faire semblant, cela ne s'apprend pas. Je crois bien que le plus précieux de tous les dons, le plus rare, c'est la persuasion. S'il y a en scène 5 personnes, une femme jolie, un homme possédant une belle voix, une actrice comique, un virtuose de la parole et un comédien persuasif, je crois bien, oui, que c'est ce dernier qui finira par retenir l'attention du public. Public, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'un auteur peut exiger et obtenir d'un comédien. Toute pièce est conçue, écrite, distribuée, répétée, enfin, dans le but de vous satisfaire. Et 5 minutes avant le lever du rideau, le moins que l'auteur puisse en penser est « je crois que ça ira ». Et la bataille commence. Car, bien que vous ne soyez pas notre ennemi, c'est bien une bataille que nous livrons. Eh bien, c'est à ce moment-là que les comédiens cessent d'être des machines à répéter des mots pour devenir des collaborateurs. Il y a les répliques qu'il faut se donner, comme on se les donnait aux répétitions, mais il y a vos répliques à vous, public, vos rires, vos applaudissements, qui interviennent tout à coup et qui doivent guider le comédien dans l'interprétation de son rôle. Il s'agit alors de vous suivre, sans cependant vous laisser aller trop loin. Et lorsque vous prenez la mauvaise voie, et ça vous arrive quelquefois, il faut alors vous retenir et vous remettre dans le droit chemin, celui que l'auteur a tracé. Et c'est alors que la tâche du comédien devient extrêmement délicate et belle. Songez donc à ce que devient cette tâche quand, par malheur, vous ne donnez pas vos répliques. Oui, songez un instant à ce qui peut se passer dans l'âme du comédien quand vous êtes ce que nous appelons mauvais. La lutte qu'il livre, ce n'est pas avec vous seulement qu'il la livre, c'est avec sa connaissance. Elle lui pose le dilemme suivant. Préfères-tu essayer de sauver la pièce ou bien veux-tu sauver ta peau? Le comédien peut mettre à cette minute-là son intérêt personnel au-dessus de l'intérêt de l'auteur. Il peut le lâcher et, sans plus s'occuper de son œuvre, il peut tirer son épingle du jeu en jouant bien la comédie, mais en jouant mal la pièce. J'ai vu 2 grandes actrices faire cela. C'est honteux.
La tragicomédie que je veux vous conter se situe dans la loge de mon père, au Théâtre de la Renaissance, vers l'an 1905. Et puisqu'à mon souvenir, elle se présente dialoguée, la voici donc telle qu'elle. Émile Bergerat, auteur dramatique, entre. Il a un manuscrit qui émerge de la poche de son pardessus et dès l'abord, haussant le ton, il s'exprime avec une assurance qui dissimule mal pourtant sa juste crainte. Émile Bergerat. Guitry, je vous apporte une pièce. Lucien Guitry. Ah. Pendant toute cette scène, Lucien Guitry témoignera de la plus grande hypocrisie. Émile Bergerat. Oui. Et non seulement une belle pièce, mais aussi le plus admirable rôle que jamais vous ayez joué de votre vie. Le bonhomme que je vous destine est un de ces lutteurs que les événements les plus dramatiques ne sauraient ébranler. Doué d'une intelligence supérieure, il regarde la vie en face, domine tous ceux qui ont l'audace ou la malchance de se trouver sur sa route, et quant à ceux qui lui résistent, alors il les brise. Lucien Guitry. Vous tombez mal, cher Bergerat. J'en ai trop joué de ces bons hommes-là. J'en ai assez. Et voyez-vous, à l'heure actuelle, ce que j'aimerais jouer, vous allez me comprendre d'un mot. Oui, ce que j'aimerais jouer, c'est un cul. Émile Bergerat. Un cul? Et le cher Bergerat, qui en toute autre circonstance aurait souri, prenait très au sérieux ce singulier désir, parce que sa pièce était en cause. Un cul. Lucien Guitry. Oui. Et votre personnage n'est pas un cul. Bergerat. Ah non, évidemment, non. Non, on ne peut pas dire que c'est un cul. Non, ce n'est pas un cul. Et ce mot, il le répétait avec un tel sérieux que c'en était presque émouvant. Il voyait s'effondrer à tout jamais son espoir. Quand je dis que ce n'est pas un cul, comprenons-nous, Guitry, n'est-ce pas? En vérité, ce n'est pas ce qu'on appelle ordinairement un cul. Lucien Guitry, c'est même le contraire. Bergerat hésitant. Contraire, c'est beaucoup dire, n'est-ce pas? Car entre nous, Guitry, moi je peux bien vous l'avouer, mon bonhomme, dans le fond, j'y pense tout à coup. Ça n'est pas autre chose qu'un cul. Oui, mais alors quel cul?
Histoire d'un décor qui vaudrait aujourd'hui de 15 à 20 millions. Voici fidèlement rapportée la conversation que nous avons eue un soir, Claude Monet et moi.
Qu'est-ce que vous faites de vos vieux décors?
Moi, personnellement?
Non, que deviennent en général les vieux décors?
En principe, on les garde en vue d'une reprise éventuelle de la pièce. Quelquefois, on les loue et parfois, on les vend à des théâtres de province. Il peut arriver aussi qu'on les fasse repeindre lorsque la toile en vaut la peine.
Et de toute manière, ils n'ont pas la vie longue.
10 ans, 15 ans, pas davantage.
N'en parlons plus.
Mais pourquoi m'avez-vous demandé cela?
Parce que j'aurais aimé savoir ce qu'a pu devenir le décor du dernier acte de La Cigale de Meillac et Halévy.
Ah, c'est que la création de La Cigale date au moins
de... Elle date de 1877.
Alors il n'y faut plus penser.
Dommage.
Mais pourquoi?
Parce que le dernier acte de cette comédie, d'ailleurs charmante et merveilleusement interprétée par Céline Chaumont, José Dupuis et Baron, se passait dans l'atelier d'un peintre considéré comme loufoque dans la pièce. Vous n'avez pas La Cigale?
Oh, sûrement, si. 2 minutes plus tard, j'avais la brochure à la main.
Lisez la description du décor du troisième acte et vous allez comprendre.
Le décor représente l'atelier de Marignan. Les murailles sont couvertes de tableaux étranges. Et sur 5 ou 6 chevalets s'étalent des peintures bizarres.
Il s'agissait donc de s'adresser à 2 ou 3 artistes peintres, passant eux-mêmes pour être loufoques, et qui, mourant de faim, chichement rétribués, consentiraient à faire 12 de tableaux, paysages, portraits, natures mortes, peints sur le décor même, comme s'ils étaient accrochés, avec leur cadre en trompe-l'œil. Les personnages de la pièce, qui allaient et venaient dans le décor, devaient en rire et s'en moquer, chacun tournant en dérision cette peinture dite moderne. Et je vous prie de croire qu'ils ne s'en privaient pas. Le public, entraîné par eux, partageait leur hilarité, bien entendu.
Et c'est ce décor-là que...
Oui, qu'il eût été peut-être intéressant de retrouver.
Hélas...
Tant pis. Et si je dis tant pis, c'est bien pour la seule raison que ces tableaux désopilants nous avaient été commandés à Renoir, à Sisley, à Pissarro et à moi-même.
Cet homme heureux, je l'ai connu malheureux. Je l'ai connu en 1944, 1945, il avait été arrêté, il avait été en prison. Et... je puis vraiment maintenant, les années ont passé, il n'y a plus de passion, en témoigner en toute objectivité. Là, pardon, c'est l'historien qui parle. Il avait été victime d'une très grande injustice. La rumeur publique, et oui, elle existe et elle peut se tromper. Et 2 non-lieux, oui, car pour lui, il avait fallu 2 instructions, terminées toutes les 2 par 2 non-lieux. Et il y avait dans le second de ces non-lieux une phrase qui en dit long. La carrière de M. Sacha Guitry pendant l'occupation aurait dû servir de modèle à d'autres qui ont continué. Alors oui, je l'ai connu malheureux, profondément malheureux, car il doutait des hommes, lui qui croyait en l'homme. Et un jour, par exemple, un jour, nous, à quelques amis, nous avions fait une pétition auprès d'écrivains, de compositeurs, et nous avions porté la pétition à un compositeur qui devait beaucoup à Sacha. Il avait signé, et puis il avait dit, « Laissez-moi la pétition, je la ferai signer à quelques amis, qu'on vienne demain la chercher chez ma concierge. » On était allé la chercher chez la concierge. La pétition ne portait pas les noms des amis. Quant au nom du compositeur, il avait été effacé au correcteur. Oui, je l'ai connu malheureux. Et de ce malheur était né un autre Sacha, Et ce Sacha, je voudrais que vous le connaissiez à votre tour. Ne croyez pas quand même que ces malheurs qui l'avaient marqué profondément, ne croyez pas que ces malheurs aient fait oublier en lui-même l'homme d'esprit. Alors cet homme-là, qui reste double, je voudrais que vous le connaissiez doublement, d'abord par le récit qu'il a écrit de son interrogatoire quand il était arrivé en prison, et ensuite par un poème qu'on n'attend pas de sa plume, un poème surprenant, inattendu, très noir. Voilà le double aspect de Sacha malheureux, si vous le voulez bien mettre.
Entrez par là. J'entrais par là. Assis derrière un grand registre, un homme sans parti pris, sans malveillance, indifférent à tout et la plume à la main, lève vers moi le regard là du fonctionnaire français qui n'est jamais assez payé. Votre nom ? Guitry. Vos prénoms ? Alexandre, Georges, Pierre. Bon. Et Sacha ? Si vous voulez. Enfin, ça n'est qu'un diminutif, c'est comme qui dirait Mimi ou Toto. Bon. Nationalité ? Français. Né à Saint-Pétersbourg, Russie. A. Et ce A signifiait tout de même. Vos qualités maintenant. Bon, gentil, serviable, défi. Ben non, il ne s'agit pas de ça. Enfin, vos qualités, enfin, ce que vous êtes. Ah, auteur dramatique, commandeur de la Légion d'honneur, académicien Goncourt. Il me regarda fixement comme si je m'étais moqué de lui. Puis, revenu de sa surprise, il dit « Oui, alors, naturellement, licencié S-lettres. » Ma foi, non. Vous n'êtes pas licencié ? Non, pas encore. Bachelier seulement ? Je ne suis pas non plus bachelier. Ah, et je me voyais baissant dans son estime. Ah, vous avez tout de même votre brevet élémentaire ? Non, non, je ne l'ai pas, monsieur. Et votre certificat d'études ? On ne me l'a pas donné. Ben alors, ben qu'est-ce que je vais mettre ? Mettez ce que vous voulez, monsieur. Bon, alors je vais mettre... c'est lire et écrire. Ça dit tout, en effet. Il écrivit alors « c'est lire et écrire ». Et il le fit en hochant la tête. Et c'est en hochant toujours la tête qu'il prit mes empreintes digitales. Avec l'air de me dire « tiens, paresseux, que tu le veuilles ou non, tu auras de l'encre au bout des doigts ». Et tandis que je m'éloignais, je l'entendis qui murmurait « académicien Goncourt, c'est lire et écrire ». Et son impression n'était pas bonne.
J'ai vu la mort. J'ai vu la mort, et de bien près. Je m'en suis rendu compte après. J'ai vu la mort, et sans après. Elle est loin d'être ce qu'on croit, car je l'ai vue, et de bien près. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid, mais depuis lors j'en ai rêvé. J'ai vu la mort et j'ai trouvé qu'elle était logée à l'étroit. J'ai vu la mort et j'ai pensé que c'était laid de la cacher dans le canon d'un pistolet. Oh, le canon d'un pistolet, cet œil crevé. Celui qui tient un pistolet, j'en ai rêvé, vous apparaît comme une espèce de manchot. J'ai vu la mort, et de bien près, ça ne m'a fait ni froid ni chaud, je m'en suis rendu compte après. Un homme était entré soudain dans mon cachot, l'arme à la main, le bras tendu, je l'avais à peine entendu. Il me disait « tu vas mourir », et je l'ai cru, car on le croit. Ça ne m'a pas plus fait sourire que ça ne m'a glacé d'effroi. Et pour en vérité tout dire, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Il répétait « tu vas mourir, c'est décidé ». J'ai répondu « c'est bien possible, quand une chose est décidée, c'est donc qu'elle est possible. Et même enfin, j'admire que cessant d'être un point de mire, on puisse devenir aussi vite une cible. J'ai vu la mort et j'ai compris que ma vie avait plus de prix pour ce garçon que pour moi-même. Il avait peur, il était blême, il était ivre, et semblait attacher une importance extrême au fait que tout à coup j'allais cesser de vivre. Oui, c'était bien le crime, alternativement avec le châtiment, car j'observais silencieux qu'à de certains moments, la mort quittait son arme et passait dans ses yeux. Il le réalisait sans en être indigné. À me donner la mort, s'était-il résolu d'ailleurs ou résigné? Pour le récompenser d'avoir commis son crime, allait-il toucher une prime ou bien peut-être deux galons, c'était selon. Qu'il l'ait voulu lui-même ou non, savait-il qui j'étais? Mon nom, l'avait-il lu sur une affiche ou bien plutôt sur une liste? Était-il communard? Était-ce un nihiliste? Étais-je condamné par un vote unanime ou n'étais-je pour lui qu'un notable anonyme? Et s'il s'était trompé simplement de cachot? Je l'ai pensé. Ça ne m'a fait ni froid ni chaud, peu m'importait en l'occurrence. Puisqu'on vivait sous la terreur, entre l'injustice et l'erreur, je n'avais pas de préférence. Il répétait « tu vas mourir » et j'attendais. Il ajoutait « tu m'entends bien » et j'entendais, car j'attendais toujours et j'entendais fort bien, mais je ne mourrais pas. Et c'était lui qui retardait sans y comprendre rien l'heure de mon trépas. Si j'avais dit un mot, si j'avais fait un geste, adieu le petit-fils de monsieur de Pongeste. Mais j'ai gardé mon calme et je suis resté quoi? Et c'est précisément pourquoi nous n'y comprenions rien. Ni lui, ni moi, du reste. Car ce qui l'étonnait, c'était mon peu d'émoi, quand le plus étonné de nous deux, c'était moi. Notre surprise extrême en ce moment si grave avait je ne sais quoi de drôle et d'effarant. Lui ne me savait pas si brave et moi, je me croyais bien moins indifférent. Je n'en fais pas mystère et j'en sais le secret. La mort avait perdu pour moi tout son attrait du fait seul que la mort perdait tout son prestige. Je la mettais, bassesse oblige, en harmonie avec la mort que l'on m'offrait. Il faut que notre mort ait au moins des façons, qu'elle ressemble à notre vie et qu'elle soit enfin la nôtre, si vous voulez qu'un jour nous en ayons envie. Il ne faut pas qu'on nous convie à la mort ignoble d'un autre, qu'elle soit sans pitié, j'y souscris volontiers, mais que terrifiante, elle ait un certain charme. Or, la minute étant passée, l'homme a laissé tomber son arme et sans mot dire, il est sorti comme à regret. J'avais vu la mort de bien près.
Il ne faut surtout jamais rester avec Sacha sur quelque chose de triste, sur une note de tristesse. Lui-même ne l'aurait certainement pas voulu. Alors je me souviens de sa rentrée à la salle Pleyel. Il n'avait pas voulu en 1947 faire sa rentrée tout seul. Faire au contraire sa rentrée au théâtre avec des comédiens, il avait dit « Je dois prendre mes responsabilités, je rentrerai seul. » Il avait choisi la salle Pleyel et une conférence. Et j'étais là, imaginez la salle Pleyel, 3000 places, bourrées. Et le climat, un peu celui d'une course de taureaux, où les gens sont venus pour voir la mise à mort, c'était vite. Et alors on a frappé les trois coups. Et tout le monde se disait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va dire? Comment va-t-il commencer? Attente, suspense, angoisse. Et j'étais là, au premier rang. Vous voyez, la scène de la salle Pleyel, c'est très grand. Il y avait les rideaux noirs. Il est arrivé par le fond. Et c'est très, très long à traverser. Il y a eu d'abord un silence. Et il avançait dans ce silence. Et nous, ses amis, l'angoisse étreignait nos cœurs. Et tout à coup, on a commencé à applaudir. Des applaudissements d'abord timides, et tellement timides que un homme qui, au troisième rang, s'est levé, faisant claquer son fauteuil, s'est fait entendre. Tout le monde l'a regardé. Et puis un peu plus loin, un autre s'est levé. Puis un autre s'est levé. Et une minute après, 3000 personnes, salle Pleyel, étaient debout. Je n'ai jamais vu ça, je ne reverrai probablement jamais ça. Et devant ce salut de Paris qui disait « On vous a fait de la peine, on le regrette, pardon », moi qui étais là tout près, quand il s'est assis devant la table et le tapis vert, j'ai vu une larme qui coulait. Et puis, les applaudissements ont cessé, les gens se sont assis eux aussi. Et de nouveau, le silence, l'attente. Comment allait-il commencer? Et se penchant vers le public, il a commencé ainsi. À mon arrivée au dépôt, et alors là, ce fut l'immense éclat de rire, il avait repris Paris dans un éclat de rire. Et alors, pour Sacha Guitry, a recommencé ce qu'il aimait le plus au monde, le travail. Il a travaillé jusqu'à son dernier moment, jusqu'à sa dernière heure, accumulant de nouveau les textes, les pièces, les films. Mais, cependant qu'il vieillissait, une préoccupation se faisait jour, plus précise encore que jusque-là, l'intérêt qu'il portait à la jeunesse. Et souvent, quand je l'entendais parler des jeunes gens et me dire à moi ce qu'il pensait de la jeunesse, je me disais, mais quel dommage. Quel dommage que cet homme-là n'ait pas eu d'enfant, car il était fait pour être un père merveilleux.
Et pourquoi dites-vous que je n'ai pas de fils? Qu'est-ce que vous en savez, quand moi-même je n'en sais rien? Un jeune homme a passé là, devant ma fenêtre, il y a 5 minutes. Prouvez-moi donc que ce garçon n'est pas mon fils. Il est mon fils. La preuve en est que... l'être à mon fils. Mon chéri, je t'ai trouvé bien bonne mine tout à l'heure, et tu marchais d'un pas léger qui m'a ravi. Tes deux mains dans tes poches et tes cheveux au vent, tu étais la jeunesse en personne. Tu passais seul à ce moment dans cette allée, et pourtant tu semblais dépasser tout le monde. Tu ne t'enfuyais pas, tu fuyais la laideur, la bassesse et l'envie. Tu étais beau, tu souriais. Je t'en fais bien mon compliment. Vis, sois heureux. La vie est belle, elle est belle, et pourtant les hommes sont affreux. Ne les regarde pas, ne cherche pas à les comprendre. En ce moment, ils marchent sur la tête. Devant ce monde renversé, ne dis pas « j'arrive mal », dis-toi plutôt « j'arrive à temps ». On ne peut pas mieux arriver que tu n'arrives, on t'attendait. Ne regarde personne et montre-toi joyeux, déterminé, charmant. Sois l'avenir d'un pays qui n'a pas son pareil. Sois heureux, je t'en prie. Fais cela pour la France, elle en a tant besoin. Heureux ne veut pas dire à qui tout réussit. Heureux veut dire favorable. Et d'un événement, l'on dit qu'il est heureux quand il fait le bonheur précisément de tous. Sois heureux dans ce sens, sois un événement. Et si tu es heureux, tout te réussira. D'ailleurs, puisque tu as 18 ans, c'est toi la France. Mais ce n'est toi qu'à condition que tu le veuilles. Or, le veux-tu? Oui? Eh bien alors, à ceux qui te diront que la France aujourd'hui n'est pas reconnaissable, réponds en souriant, vous ne m'avez donc pas regardé? Alors peut-être, enfin, la reconnaîtront-ils. Pour être heureux, sois exemplaire. Et si tu veux être exemplaire, sois honnête homme, en considérant bien tout ce que cela comporte. Ne fais jamais le mal. Laisse-le faire aux autres, ils s'en tirent si bien. On ne se console pas du mal que l'on fait soi, tandis que l'on parvient à faire son profit du mal que l'on vous fait quand on a l'âme forte et le sens de l'humour. Ne reconnais à personne le droit de t'empêcher de dormir. Monsieur de Montesquieu, qui était l'intelligence même, se tut à te le dire. La gravité est le bonheur des imbéciles. Sois circonspect à l'égard de ceux qui s'expriment avec gravité. Ne prends guère au sérieux que les gens qui plaisantent. Et méfie-toi de ceux qui sont solennels et sévères. Les gens qui sont sérieux ne sont en général que des gens qui se prennent au sérieux. Mais la vie, aime-la et reste convaincu que rien n'en peut altérer la beauté, le charme et l'équilibre. Je dirais même plus, aime-la telle qu'elle. Les livres, les saisons, les femmes, la peinture et le bruit de la ville et le calme des champs. Il faudrait que pour toi, ce fût cela la vie extérieure. Tu me diras, et la famille, et l'amitié, et les plaisirs, et les voyages. Oui, la famille, assurément. Mais c'est à prendre ou à laisser. L'amitié, oui, bien entendu. Mais par prudence, fais état de l'amitié que toi tu portes à tes amis, de préférence encore à celle qu'ils te vouent. Et dès lors, tu n'auras pas de reproche à leur faire. Les plaisirs, ah oui, mais donne-t'en, va, c'est plus sûr. Quant au voyage, ah, 100 fois oui, oui, l'acropole et les musées, les cathédrales et les palais, le pont de Galata, Strelza, le lac de Côme et les bouches du Nil, oui, oui, c'est merveilleux, c'est sublime à voir. Mais c'est plus merveilleux, c'est plus sublime encore à montrer, tu verras. Rien n'est plus beau, je crois, qu'un Vermeer que l'on montre à la femme qu'on aime. Or donc, admire éperdument, adore à la folie, et que par-dessus tout, ton travail soit sacré. 60 ans d'existence et 42 ans d'un travail continu, d'un bonheur incessant, m'auront précisément appris que le bonheur, notre bonheur, dépendait à la fois du choix de notre femme et du choix de notre carrière. Toute erreur au départ sur l'un de ces deux points peut nous être fatale, d'autant plus qu'ils sont liés. Et si tu veux bien m'en croire, l'amour sans le travail, à la fin, nous obsède. Et le travail, lui, nous dévore sans l'amour, tandis que l'un et l'autre, ils nous sont un refuge. Quant à guider ton choix, je m'en garderai bien. J'ai trop d'expérience. Et je te prie de croire que si j'ai mis le mot « expérience » au pluriel, ce n'est pas par distraction. Oui, vive la vie, mon chéri, et fais la sourde oreille aux avertissements de ceux qui tenteraient de t'en dégoûter. Cependant, si l'envie un jour te prenait de leur clouer le bec, propose-leur donc de la quitter 6 mois plus tôt, cette existence qu'ils abominent, et tu verras la tête qu'ils feront.
Oui, jusqu'à son dernier moment, il a travaillé et il y a mis plus que du courage, il y a mis de l'héroïsme, car il était atteint d'une maladie terrible, une maladie qui atteignait tous les nerfs de son corps, ce qui faisait que chaque instant de sa vie était une souffrance intolérable. Et pourtant, il travaillait. Et cependant est venu le dernier jour. Ce jour où il a dit tout à coup à Lana Marconi, à Madame Sacha Guitry, « Je vais mourir. Tu ne vas pas laisser faire ça. » Et puis, un peu plus tard, « Ne m'en garde pas. Ça n'est pas un spectacle. » Et enfin, « Allons, mes enfants, en voiture. » Il nous avait quittés. Nous l'avons pleuré. Mais au fond, nous avait-il vraiment quittés? Car enfin ce soir, en écoutant de nouveau Sacha Guitry, en écoutant ses textes, j'ai eu l'impression très nette qu'il était présent, qu'il était vivant. Et dans un dernier texte, justement, qu'on a retrouvé dans ses papiers après sa mort, il prenait une note ultime, il attendait un jeune comédien, encore un jeune homme. Et parlant de ce jeune homme, il écrivait « J'ai rendez-vous avec l'avenir. » Eh bien, monsieur Guitry, nous sommes sûrs désormais que chaque fois que nous aurons rendez-vous avec vous, nous aurons rendez-vous avec l'avenir.
C'était Soirée littéraire de la Comédie française, si Sacha Guitry nous était compté, deuxième partie par Alain Decoux, avec les comédiens français Jean Piat, Michel Etcheverry, Maurice Escande, Jacques Dejat, Micheline Boudet, Simon Haine, Jacques Heiser, Catherine Samy, Claude Winter. Réalisation Gilberte Samba. Première diffusion sur France Culture le 19 juillet 1969. Vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.